Phil PM Paranormal.
The flying disc has been found.
El mítico Chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
Et si vous voulez aller voir en chair et en os, et en chair et en beaucoup d'os, notre ami Christian Page. Vous pouvez le rencontrer cette fin de semaine en conférence.
Oui, c'est demain, samedi, je serai au Collège Rosemont pour une présentation, le paranormal versus la science. C'est en début d'après-midi, donc à 13h, Collège Rosemont. Toutes les informations sont sur mon site web, le www.christianpage.ca.
Parlons de la tombe d'un enfant vampire qui a été découverte.
En Italie. Écoute, Mathieu, c'est assez...
On sait que c'est une condition qui existe, là, le vampirisme.
Le vampirisme, en fait, il y a deux maladies. Une maladie clinique qui s'appelle la porphyrie de Gunther en particulier. Faut faire attention parce que ce ne sont pas ces maladies qui ont donné naissance au mythe du vampire. Hein. Ce sont des maladies, ce sont des pathologies qui sont associées à, qui ont pu contribuer à l'image du vampire. Mais le mythe du vampire, il existe depuis l'Antiquité. Là. C'est le mythe tel qu'on le perçoit nous. Là. Ce mythe-là va apparaître, donc le vampire qui sort la nuit pour sucer le sang des vivants.
Ça, c'est Bram Stoker.
En fait, il apparaît plus tôt que ça, aux alentours du 12e, 13e siècle, il apparaît en Europe centrale. À ce moment-là, on ne parle pas de noble. Hein, Bram Stoker va amener le personnage du noble. Hein, les vampires, là, au 13e, 14e siècle, ça se passe dans des communautés rurales. Les vampires ressemblent davantage à l'image qu'on se fait des zombies. Ce sont donc des morts vivants qui sortent de leur tombe pour aller tuer des gens et s'abreuver de leur sang. Donc, il n'y a pas l'imagerie du noble, elle n'existe pas à ce moment-là. Il va falloir attendre le début du 19e siècle avec des auteurs comme Lord Byron, John Polidori, qui vont romancer un peu le personnage du vampire. Ils vont même l'aristocratiser, si je puis dire. Et c'est de cette manière-là qu'à la fin du 19e, Bram Stoker va utiliser un personnage réel, hein, Vlad Dracula, qui était aussi connu sous le nom de Vlad l'Empaleur, et qui va en faire son fameux le comte Dracula. Donc, mais si on recule dans l'histoire, le mythe du vampire tel qu'on le connaît, donc on sort des tombes, on boit le sang des vivants, ce mythe-là apparaît, il va se répandre en Europe centrale, aux alentours du 12e, 13e siècle. Le vampire va devenir plus un aristocrate au 19e siècle, mais l'idée même du mort-vivant qui tue les vivants, qui s'en prend aux vivants, on retrouve ça très, très lointain, jusque dans l'Antiquité. Et là, on en a encore une preuve assez étonnante, mais elle est quand même étonnante et surprenante. On est en Italie, ce sont en fait des chercheurs de l'Université de l'Arizona qui ont rendu ça public cette semaine. Ils ont mené des fouilles en Italie dans je vais te nommer le petit village en question, c'est
Lugano
in Taverina. Donc, ils sont à Lugano. Et là, ils ont découvert une nécropole, c'est un cimetière qui contenait surtout des dépouilles de jeunes enfants. Et parmi ces dépouilles, ils vont en trouver un dont visiblement les ossements montrent que c'est un enfant un peu plus âgé, peut-être 10 ou 11 ans, et il a été enterré avec une pierre dans la bouche. Donc, il est clair que l'enfant en question a été inhumé et en lui mettant la pierre dans la bouche, on voulait s'assurer qu'il ne reviendrait pas d'entre les morts pour s'en prendre aux vivants. Il faut savoir qu'à cette époque, il y avait des épidémies qui étaient répandues en Europe, notamment une épidémie de malaria. Et ce que l'on craignait éventuellement, c'était que les morts de ces maladies reviennent d'entre les morts et continuent de répandre l'épidémie en s'en prenant aux vivants. Pour une raison que l'on ignore ici, mais tu comprendras que c'est quand même une tombe qui a 15 siècles d'âge, hein, parce qu'on parle d'un cimetière qui date du 5e siècle. On ignore quelles ont été les motivations, pourquoi ce jeune-là plus qu'un autre, mais visiblement, les gens, on n'a pas encore fait non plus d'analyse ADN pour être bien certain qu'il est mort de la malaria, mais comme il y avait une épidémie qui se répandait à travers l'Europe à ce moment-là, il est raisonnable de croire que l'enfant est mort de cette maladie-là. Pourquoi maintenant lui plus qu'un autre? Pourquoi lui avoir réservé ce sort que l'on réservait, disons, aux vampires primitifs? Hein? Mm-hmm. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on trouve une tombe avec des gens qui ont été cloués dans le fond de leur cercueil ou qui ont été inhumés avec des pierres dans la bouche. Hein. Un corps semblable avait été trouvé au 12e siècle, 13e siècle. On avait trouvé une nécropole à Venise où on avait trouvé une dame comme ça qui avait été inhumée avec une pierre dans la bouche. En fait, c'était une brique dans la bouche et on l'avait surnommée le vampire de Venise. Donc, on voit que
c'est un lien direct qu'ils font avec les vampires.
C'est des liens indirects, mais on voit que pour les populations, c'est la représentation de cette superstition que les morts peuvent revenir d'entre les morts pour s'en prendre aux vivants. Et ce qui est surprenant ici, c'est que c'est probablement la plus ancienne représentation de cette superstition qu'on a découvert. Parce qu'on est quand même ici au 5e siècle après Jésus-Christ.
Mais question pour vous, M. l'enquêteur, est-ce qu'il y avait quelque chose dans sa morphologie qui laissait croire que cet enfant-là avait des prédispositions à être atteint des maladies?
Voilà. Pour l'instant, la seule chose que l'on sait, ce qui a été publié par l'Université de l'Arizona, les archéologues, c'est qu'on est en présence d'un corps d'un jeune garçon, visiblement âgé de 10 ou 11 ans, là, dans ces alentours-là. Pour le moment, on ne voit rien dans les ossements ou on ne voit aucun signe clinique ou pathologique qui permettrait de déterminer pourquoi plus cet enfant-là qui aurait été ciblé que les autres. Donc, on ne sait pas ça. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il y a des marques de dents sur la pierre qui a été trouvée dans sa bouche, ce qui montre bien que quand l'enfant a été inhumé, il avait la pierre dans la bouche. À ce moment-là, la mâchoire a bougé. Elle a laissé des empreintes sur la pierre en question. Les dents ont éraflé la pierre. Ce qui montre bien que l'enfant a été inhumé avec la pierre dans la bouche, et ce n'est pas au fil du temps un tassement de sol qui aurait fait que par un hasard extraordinaire, la pierre se serait retrouvée dans la bouche du dit squelette. Donc, c'est vraiment, il a été inhumé de cette manière-là, et c'est peut-être la plus ancienne représentation découverte, à tout le moins qu'on a, de façon archéologique, qui montre à quel point ce mythe du mort vivant qui revient du royaume des cieux pour s'en prendre aux vivants, c'est cette représentation de cet enfant de 10 ans trouvé cet été dans un cimetière en Italie par des archéologues de l'Université de l'Arizona.
Alors là, j'ai parlé pendant un bout de temps de laïcité, tu vas nous parler de Bible et tu me dis que, et si la Bible disait vrai?
Oui. Écoute, c'est une découverte fort
pour ça qu'il faut garder le crucifix, je suppose.
Non, on n'ira pas jusque-là. Tu sais, quand on parle de l'Ancien Testament, donc on va essayer de s'éviter les problèmes, parlons de l'Ancien Testament. quand on regarde dans l'Ancien Testament, l'un des passages les plus importants, bien sûr, c'est l'Exode. Hein? Ce moment où Moïse, on a tous vu Charlton Heston ouvrir les eaux là, et s'enfuir d'Égypte en entraînant derrière lui toute la communauté hébraïque là, qui était prisonnière des Égyptiens. Et ils vont errer, selon ce que nous dit l'Ancien Testament, ils vont errer pendant 40 ans dans le désert du Sinaï à la recherche, ou à tout le moins l'attente d'entrer dans la terre promise qui va devenir Israël. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est dans ce récit biblique, il n'y a absolument aucune preuve historique qui permet de croire ni en l'existence de Moïse, ni en un exode massif de gens, et encore moins des Hébreux qui auraient été détenus prisonniers par les Égyptiens. On n'a jamais trouvé en Égypte le moindre codex, aucune inscription, aucun hiéroglyphe qui permet d'aller dans ce sens-là. Donc, en dehors des textes religieux, cette histoire-là de l'exode de Moïse et du peuple hébreu n'existe pas. Et moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais fait une série documentaire qui s'appelait « La recherche des reliques saintes » et j'avais essayé de retrouver l'Arche d'Alliance de Moïse qui, justement, avait accompagné les Hébreux dans leur fuite dans le désert du Sinaï. Et je me rappelle avoir parlé avec des archéologues qui faisaient, justement, des fouilles dans le désert du Sinaï qui me disaient « Tu sais que cette histoire-là, elle n'est pas appuyée par aucune preuve archéologique. » C'est-à-dire qu'on n'a jamais trouvé dans le désert du Sinaï des preuves d'une occupation massive. Bien sûr, on a trouvé des traces d'occupation de petits groupes nomades, mais une occupation massive comme celle décrite dans la Bible, elle n'existe pas. Alors voilà qu'on a une découverte qui va un peu, en fait, qui alimente beaucoup de controverses autour de cette histoire de l'Exode. Et c'est une découverte qui a été faite il y a quelques mois par des archéologues qui travaillaient le long du Jourdain. Ils ont mis à jour les restes d'un campement hébreu, visiblement, qui date du 13e siècle. Donc, exactement à l'époque où on situe, grosso modo, l'Exode. Alors, les archéologues se disent, et on n'a trouvé que des murets qui semblent être des enclos, ce qui laisse croire que les habitations, parce qu'on n'a trouvé aucun vestige d'habitation, ce qui laisserait donc croire que les gens qui vivaient à cet endroit-là vivaient dans des tentes, donc visiblement des gens qui étaient nomades. Donc, on ne parle pas ici de groupes sédentaires. Donc, des nomades au 13e siècle qui longent le Jourdain avec des animaux, évidemment, tout ça nous rapproche du récit de l'Exode. Il ne faut pas imaginer la grande problématique, évidemment, quand on lit ces textes textes, c'est d'essayer de les prendre de manière littérale. Hein. On se dit, bon, il y avait 200 000 Hébreux, il y avait Moïse, il a ouvert la mer Rouge. C'est une erreur de prendre ça de manière littérale. Mais les archéologues disent, il n'est pas interdit de penser que le mythe de Moïse a été inspiré par des faits réels. Donc, peut-être des exodes de population, par petits groupes de nomades, qui auraient peut-être suivi un chef de clan, un chef de groupe, qui ultérieurement sera associé à Moïse. Parce qu'il faut savoir, Mathieu, que les premiers écrits de l'Ancien Testament date à peu près de l'an 800 avant Jésus-Christ, alors que Moïse est situé vers le 13e siècle avant Jésus-Christ. Donc, on a 5 à 600 ans de tradition orale avant que les premiers écrits apparaissent. Alors, tu comprends un peu, on ne veut pas faire de mauvais jeu de mots, mais c'est un peu le téléphone arabe. Hein? Donc, ouais. on multiplie l'histoire. Donc, ce Moïse, peut-être un chef de clan, peut-être que derrière lui, il a entraîné des petits groupes de nomades et est devenu finalement le sauveur du peuple hébraïque avec toute cette multitude de gens qui l'auraient accompagné.
Dommage, on n'aura pas le temps pour ton dernier sujet, mais parce que j'avais la réponse, les fameuses souris nées sans fécondation, je les ai retrouvées, ils sont chez nous.
Ah!
Oui. J'essaie de les retrouver, justement.
Il y
en a au moins une. J'espère qu'elle ne fait pas partie de ce groupe, justement.
C'est quand même inquiétant, ces histoires de souris, parce qu'elles ont été produites sans l'apport d'un mâle. Donc, ce sont deux souris femelles qui ont donné naissance à une progéniture. Inquiétant pour la gente masculine.
Dit-il. Christian Page, on se retrouve dimanche à Week-end Extra.
Oui, absolument, Mathieu.
Salutations à toi. Merci beaucoup à Larry Dufresne à la réalisation de l'émission, à Maryse Duchesneau et Patrick Mahoney à la recherche. Je m'appelle Mathieu Beaumont. On se retrouve demain à compter de 7h pour Week-end Extra. Même chose dimanche également. Dans un instant, Paul Hood vous attend pour votre retour à la maison du vendredi après-midi. Passez une belle journée. Bye-bye.